affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour sera un petit peu particulière, nous n'allons en effet pas nous attacher à une œuvre spécifique, à une parution récente ou à des travaux en cours, nous allons plutôt faire connaissance avec un auteur. Nous avons en effet la joie et la chance de recevoir dans notre studio Alain Finkielkraut, qui le 28 janvier 2016 a été, enfin, allais-je dire, reçu sous la coupole de l'Académie française. Certains penseront qu'il n'est pas nécessaire de le présenter, car on ne connaît que lui, sa forte exposition médiatique pouvant lui tenir lieu de carte de visite. Ce n'est toutefois pas notre avis. C'est d'autant moins notre avis que cette carte de visite médiatique n'a pas été rédigée par lui et qu'elle prend souvent la forme fâcheuse désormais d'un réquisitoire, tant il est vrai que le monde médiatique prend de plus en plus la forme aujourd'hui d'un tribunal. Alors certes, l'accusé se défend bien, trop bien même au goût de certains, qui du coup lui en veulent encore plus. Mais notre ambition pour cette émission est précisément de permettre à Alain Finkielkraut de jouir enfin de la sérénité, de la bienveillance et de la courtoisie qui règnent sous la coupole de l'Institut de France et également dans les studios de Canal Academy. Nous voulons enfin qu'il puisse se présenter avec la sérénité nécessaire, sans avoir le sentiment d'être confronté à un interrogatoire de police. Et pourtant, notre première question sera celle-ci. Alain Finkielkraut, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous qui avez tant écrit sur le concept d'identité, nous décliner la vôtre?
Alors, la mienne, c'est très simple. Je suis né à Paris le 30 juin 1949. Je ne suis pas né français, je dois le dire. J'ai bénéficié avec mes parents d'une naturalisation collective. J'avais un an. Mon père est arrivé en France à la fin des années 20. Il a été déporté de France, d'abord à Beaune-la-Rolande, puis à Auschwitz en 1942, je crois. Ma mère a vécu en Pologne, elle est née à Lwów. Elle s'est cachée d'abord à Varsovie, puis avec de faux papiers, elle s'est jetée pour se protéger dans la gueule du loup, c'est-à-dire en Allemagne, où elle travaillait au titre d'infirmière. Et puis d'Allemagne, elle s'est enfuie pour la Belgique. Mes parents se sont rencontrés en France en 1948. Je suis né, si j'ose dire, dans la foulée, un an après. J'ai fait mes études tout à fait normalement, d'abord dans l'école communale du quartier où j'habitais. C'était le 10e arrondissement, j'habitais rue Lucien Sempère. Mon école communale a été celle de la rue des Récollets. J'avais obtenu des bonnes notes, et donc le directeur de cette école a conseillé à ma mère de m'inscrire au lycée Henri IV, qui n'était pas un lycée de mon secteur. Je suis allé avec elle au petit lycée, nous avons rencontré le directeur qui m'a dit qu'il me prenait à l'essai pendant 3 mois, ce qui fait que je suis sorti de cette entrevue très secoué, en larmes, en me disant « c'est pas une situation possible, je n'y arriverai jamais ». Je me suis accroché, j'ai tenu bon, j'ai fait toutes mes études au lycée Henri IV, passé les concours, j'ai été reçu à l'école normale supérieure de Saint-Cloud en 1969, et puis j'ai passé l'agrégation de lettres modernes en 1972, j'ai enseigné dans un lycée technique à Beauvais, puis au titre de Visiting Assistant Professor pendant 2 ans à Berkeley, aux États-Unis. Après quoi, je suis revenu en France, je me suis mis en disponibilité, et puis, je raccourcis un peu, j'ai eu la chance, sur une proposition de Jean-Marie Borzex, de pouvoir commencer l'émission Réplique en 1985, et en 1988, j'ai été, 1987 je crois exactement, j'ai été élu professeur à l'école polytechnique. Et puis, à partir de 1976, j'ai commencé à écrire des livres, d'abord avec Pascal Bruckner, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, car il était un écrivain plus fluide, plus prolixe que je ne l'étais moi-même. J'avais fait quelques articles dans des revues comme Critique ou Communication, mais ça ne se déclenchait pas très bien. Nous avons écrit ensemble Le Nouveau Désert d'Amoureux. Puis, au coin de la rue d'Aventure, je me suis lancé tout seul pour faire Le Juif Imaginaire, et j'ai mené de front, donc, une carrière d'homme de radio avec Réplique. L'émission a maintenant 30 ans. De professeur de philosophie et d'histoire des idées à l'école polytechnique, et puis d'écrivain, philosophe, essayiste, peu importe le nom que l'on donne. Voilà ce que je peux dire de mon identité.
Alors, ce qui est assez extraordinaire et révélateur, c'est que lorsqu'on vous demande de parler de votre identité, je n'ai pas calculé précisément, mais enfin, sur les 5 minutes que cela vous a pris, il y a probablement plus de 3 minutes qui sont consacrées au parcours de l'école jusqu'à l'université.
Ben oui, c'est-à-dire, il faut dire d'où je viens, ce que j'ai fait, et je suis, si vous voulez, je suis un bénéficiaire, je veux dire, de l'école républicaine. J'ai eu la chance de faire des études à une époque où régnait encore la rigueur et l'exigence. Je suis né dans une famille juive polonaise, mais j'ai eu la possibilité d'assimiler à l'école une partie, je dis bien cela, une partie de la culture française. Je ne suis pas un héritier, pour reprendre la terminologie de Bourdieu, mais précisément, l'héritage m'a été offert. Et donc, ce que je suis, je le dois aussi à ce parcours.
Alors, je pense que ce que vous venez de dire illustre le malentendu qui peut exister entre vous et une partie de l'opinion ou des gens qui vous jugent. C'est-à-dire que vous êtes souvent accusé, finalement, aujourd'hui, d'essentialiser l'identité. Et ce que l'on découvre, c'est que vous la voyez plutôt comme quelque chose de dynamique. Et je voulais en venir à autre chose. N'avez-vous pas parfois le sentiment que ce que l'on vous reproche, au fond, c'est cette gratitude que vous venez d'exprimer ?
Oui, j'ai écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelait « L'ingratitude ». Ça me paraît une des tentation de la modernité ou de l'hypermodernité. Et en tout cas, j'essaye en effet d'exprimer cette gratitude, car ce que je suis, je le dois à d'autres que moi. Donc vous me demandez mon identité, et effectivement, d'entrée de jeu, je vous parle, j'acquitte la dette qui est la mienne, parce que je ne suis pas sorti tout armé de la cuisse de Jupiter. Mon identité, ce ne sont pas des qualités qui se seraient trouvées en moi dès ma naissance et que j'aurais pu déployer sans obstacle, par je ne sais quel miracle. Non, justement, je crois que si l'on veut parler intelligemment, avec justesse, de l'identité, il faut d'abord s'interroger sur le monde d'où l'on vient.
Vous avez dit « je n'étais pas un héritier ». Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des héritiers aujourd'hui ? Moi, j'ai l'impression d'être entouré d'orphelins.
Oui, c'est une vraie question que vous posez là. Quand Bourdieu écrit ce livre en 1964, avec Jean-Claude Passeron, il dénonce ce qui lui apparaît comme le mensonge de l'école républicaine. Celle-ci prétend instaurer l'égalité des chances, or, elle ne fait que reproduire l'inégalité des classes, puisque ceux qu'elle sélectionne, ce sont, dit-il, les gens, les enfants qui sont nés dans la bourgeoisie, cette classe cultivée, qui ont un rapport de familiarité avec le monde de la culture, et l'enseignement joue sur une espèce de connivence. Voilà ce qu'il dénonçait, à mes yeux, à tort. Mais aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'existence, sur la persistance en France d'une classe cultivée. Existe-t-elle encore? La classe dominante aujourd'hui se soucie-t-elle de la culture ou non? Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai le sentiment, au contraire, que la France tend à devenir une société post-culturelle et ce sont les dominants actuels, qui donnent l'exemple. Alors, vous parlais du fait que j'avais eu la chance d'assimiler une partie de la culture française à l'école. Mais justement, j'utilise le mot d'assimilation en ce sens, comme un verbe transitif. On discute aujourd'hui de la pertinence de ce concept pour les Français de fraîche date. On dit c'est un concept violent, niveleur, néocolonial. On voudrait réduire l'altérité. On voudrait que ceux qui viennent d'ailleurs deviennent comme nous et abdiquent leur identité, la sacrifient pour se fondre de la masse. C'est ce qui fonde, c'est ce qui motive la critique de l'assimilation. Je crois que cette critique n'est pas fondée. J'ai grandi dans une période assimilatrice de l'histoire de France. C'était la vocation de la République et dans la République de l'école. Et on ne m'a jamais demandé de sacrifier mon identité. Mais si je vois aujourd'hui l'état général de la société et si j'analyse les réformes scolaires, je constate que nous entrons dans une période paradoxale de désassimilation générale. C'est-à-dire, les héritiers ou les anciens héritiers et les autres, les Français de fraîche date et les Français de Chousse, sont logés à la même enseigne, on les dépouille, on les prive précisément de cet héritage. On décide de brader cet héritage au nom de l'égalité de tous avec tous. Il ne faut pas qu'il y ait de handicap et en invoquant un idéal multiculturel qui en finit avec la prééminence de la culture française en France.
Ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est que le discours habituel était de dire la culture, l'art rapproche les peuples, elle permet le dialogue et autres. Ce que l'on constate n'est-il pas plutôt l'inverse? C'est-à-dire que pour rapprocher les peuples et permettre la cohabitation, tout simplement, on demande à chacun de devenir une sorte d'homme sans qualité.
Soit d'être un homme sans qualité, totalement déterritorialisé, soumis simplement en guise de culture générale à la culture de masse, ou bien alors on dit aux nouveaux arrivants, on leur propose de rester ce qu'ils sont. On se refuse à exiger d'eux le moindre effort pour justement assimiler la culture du pays d'accueil et au nom du vivre ensemble. Or, il me semble, moi, que pour rétablir en France, pays en crise, pays même en voie de désintégration, une véritable amitié française, il faut rendre justement à la culture, donc à la culture française, tout son éclat. Elle doit être, si vous voulez, l'entité englobante pour les uns et pour les autres. Ce serait, à mes yeux, le rôle que doit remplir l'école. Malheureusement, toutes les réformes engagées depuis près de 40 ans vont dans un tout autre sens.
Alors, un certain nombre de... Toujours dans ce but d'éclairer votre pensée et de vous permettre de l'exprimer, un certain nombre de gens vous reprochent de laisser entendre, à tort ou à raison, que nous nous dépouillerions de cette identité, de ce trésor hérité du passé, et c'en est un, précisément pour permettre, non pas cette assimilation ou cette intégration, mais comme vous le dites, rendre possible simplement cette présence.
Oui.
Alors que on pourrait peut-être aller plus loin, c'est-à-dire que ce dépouillement a commencé bien avant. N'est-ce pas une objection finalement assez juste, que ce dépouillement obéit à une dynamique de rejet, de l'ancrage, de l'héritage, à cette ingratitude? Elle n'est pas seulement instrumentale, est-elle seulement utilitaire? Ou est-ce que précisément le problème est né du fait que ces gens arrivent avec quand même un sentiment assez fort de leur identité, c'est le moins qu'on puisse dire, et arrivent dans un univers où domine l'utilitaire, le technique, le superficiel?
Oui, vous avez raison, bien entendu. Je ne mets pas en cause l'immigration en tant que telle. Je constate qu'il y a en France une crise de l'intégration, mais je pense aussi que, quand bien même il n'y aurait pas en France de territoire perdu de la République, pour reprendre l'expression devenue célèbre de Georges Bensoussan dans un livre collectif publié pour la première fois en 2002, quand bien même il n'y aurait pas de territoire perdu de la République, la volonté de brader l'héritage se serait manifestée d'elle-même. Cet héritage est lourd et on s'en défait, on s'en dépouille au nom d'une certaine conception de l'égalité. Chesterton disait « Le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles. Je me demande aujourd'hui si le monde n'est pas plein d'idées démocratiques, voire républicaines devenues folles. » L'égalité est invoquée sans cesse, précisément pour mettre en cause toute forme de hiérarchie, toute forme d'éminence, et pour justifier ce qu'Auguste Comte appelait magnifiquement l'émeute des vivants contre les morts. Pourquoi penser que telle œuvre est grande? Pourquoi devrais-je m'incliner devant elle? La liberté d'opinion, la liberté d'expression, les droits de l'homme ne nous mènent-ils pas, au contraire, à un nivellement général? Il y a, si vous voulez, la démocratie elle-même, une véritable tentation nihiliste. Non pas la tentation du « tout est permis », bien sûr, mais ou ni même peut-être celle du « tout est possible », mais la tentation du « tout est égal ». Voilà. Et chacun doit pouvoir s'exprimer comme il l'entend. Et donc, le monde de la culture devient une sorte de forum où les opinions les plus diverses sont mises sur le même plan. C'est une réalité dont parlait d'ailleurs déjà Alan Bloom, le grand essayiste, philosophe américain, élève de Léo Strauss, dans un livre des années 80, « The Closing of American Mind »,« L'âme désarmée ». Il disait la difficulté qu'il y avait aujourd'hui à enseigner Platon devant des élèves de l'université américaine, parce que d'un coup, on déployait les richesses de la République et l'élève disait « mais Platon pense comme ça, moi autrement, et puis voilà, et pourquoi pas ?» Et donc, il n'y avait pas dans cette difficulté. Elle est interne au mouvement démocratique lui-même et l'immigration n'y est pour rien. Mais évidemment, dans une situation où l'on brade l'héritage, l'accueil des nouveaux arrivants en est rendu particulièrement difficile, parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'a plus rien à leur offrir, ou alors qu'on ne veut plus rien leur offrir. Ce qui contrevient à ce que sont à mes yeux, les véritables lois de l'hospitalité. Pardon. L'hospitalité, c'est de donner quelque chose à celui qui vient.
Je rebondis sur cette idée de grande braderie et d'idées démocratiques ou républicaines devenues folles. De fait, souvent aujourd'hui, on a l'impression que dans un premier temps, il y a une forme d'insurrection contre ce qui est donné, et donc il faut recevoir, accueillir avec humilité, et que cela a été fait au nom de l'acquis, et de l'acquisition, et de l'effort, mais qu'aujourd'hui, après s'être débarrassé de ce qui est donné, on se débarrasse aussi de l'effort et de l'acquisition. Que reste-t-il alors ?
Oui, on se débarrasse de l'effort et de l'acquisition, puisque, si vous voulez, on est en train, il y a un risque en tout cas, aujourd'hui, non pas d'oublier l'idéal des Lumières, puisqu'on invoque sans cesse les Lumières, mais de dénaturer cet idéal. L'idéal des Lumières, c'est Kant qui le résume le mieux, penser par soi-même. Il s'agit d'apprendre l'autonomie. Mais on est en train de dénaturer cet idéal en le naturalisant, si j'ose dire. L'idée se répand qu'on pense de soi-même par soi-même. On pense de soi-même par soi-même, alors que l'humanisme, c'était l'idée que il faut faire un détour par les signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture pour accéder à soi-même et au monde. Et tout d'un coup, ce détour devient inutile. Et c'est le grand défi de notre temps que de ranimer derrière l'idéal des Lumières, l'idéal humaniste sur lequel il repose.
On veut dire que pour atteindre l'universel, il faut d'abord passer par le singulier.
Oui, aussi. Donc il faut passer par le singulier, c'est-à-dire la langue dans laquelle on parle et la littérature, la philosophie qui ont su le mieux incarner cette langue.
Parce que dans cette réflexion sur l'identité qui est de fait devenue une donnée centrale, finalement, est-ce que le choc des identités, la nécessité de se confronter à des gens qui en revendiquent une, fût-elle caricaturale ou idéologique et dénaturée, n'est pas finalement une chance? Est-ce que sans cette immigration, sans la forme qu'elle prend et le véhicule, et ce qu'elle véhicule, fût-ce à son corps défendant, ce ne serait pas resté une non-question?
Oui, vous avez raison, et je m'en rends compte pour moi-même. Vous me posiez la question, vous me demandiez en commençant de décliner mon identité. Alors j'y reviens pour répondre à votre dernière interpellation. Je suis né en France et j'ai été naturalisé français tout de suite. Donc, d'une certaine manière, je suis né français. C'était ma carte d'identité, c'était mon passeport. Mais pendant très longtemps, ça n'a rien signifié de spécial pour moi. J'étais français et alors le monde dans lequel j'évoluais était, si vous voulez, toute façonnée par des concepts politiques à vocation universaliste, par des noms communs, pas par des noms de pays. Donc, comme toutes les jeunes gens de ma génération, j'ai cru ou fait semblant de croire, c'est toute l'ambiguïté de 68, dans la Révolution. Et puis, j'ai connu aussi cette grande conversion à la démocratie, née de la prise de conscience de l'imposture et de l'horreur totalitaire. Mais démocratie face au totalitarisme, c'était aussi un concept général. Donc j'étais cosmopolite. Après, dans les années 60-70, je me battais contre le système. Après, j'ai voulu, au contraire, défendre la démocratie. Mais la France, je l'ai découverte, d'abord, en deux temps d'ailleurs, avec le combat pour la laïcité. En 1989, j'ai signé avec Régis Debray, Elisabeth de Fontenay, Catherine Kissler et Elisabeth Badinter, un texte, professeur ne capitulez pas, le proviseur ou le principal d'un collège de Creil avait exclu provisoirement deux ou trois jeunes filles, deux ou trois élèves, qui, au mépris du règlement intérieur, refusaient d'enlever leur voile dans la classe. Elles étaient autorisées à le porter dans la cour. Ça a créé une grande discussion, et je défendais alors la laïcité, encore un concept à vocation universelle. Simplement, j'ai constaté dans les années qui ont suivi que d'autres pays aussi laïcs que la France, même si le mot, il ne le disait pas tel quel, mais des pays séculiers ou sécularisés, jugeaient cette démarche et la loi qui s'en est suivie liberticide, et se sont élevés contre ce qu'ils considéraient comme une disposition atrocement répressive. J'ai lu des textes terribles en Pologne, mais pas la Pologne catholique, la Pologne de Gazeta, la Pologne dissidente, mais aussi
dans mon
au Canada,
anglo-saxon, j'imagine, oui.
Mais aussi au Canada et aux États-Unis. Et je me suis donc... J'ai été renvoyé à la France. Voilà une laïcité française, une certaine idée française du commerce des sexes, comme on disait autrefois, comme on n'est plus vraiment autorisé à dire aujourd'hui. Et une certaine idée de la présence du féminin. Donc la France, tout d'un coup, m'est devenue chère à travers le défi auquel elle était exposée. Et évidemment... Quand je vois aujourd'hui la France attaquée en tant que telle, contestée par certains qui veulent en France même instaurer un mode de vie totalement étranger à nos mœurs et à nos lois, quand je vois a fortiori que l'on peut aujourd'hui assassiner des gens parce qu'ils sont français, je suis renvoyé à cette identité française. Cette France-là est combattue. Certains voudraient en finir avec elle. Et elle devient, de ce fait même, chère à mon cœur. Donc je pense, je me suis retrouvé, malgré moi, patriote, malgré moi, comme beaucoup d'autres, j'entends aujourd'hui avec émotion la Marseillaise, dont j'ai pu juger autrefois les paroles périmées, voire bêtement sanguinaires. Elles ont une toute autre résonance aujourd'hui, ces paroles. Et je pense à Simone Veil, disant « On peut aimer la France pour la gloire, qui semble lui assurer une étendue dans le temps et dans l'espace, on peut l'aimer aussi comme une chose mortelle, comme une chose qui peut être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. Une chose qui peut être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. Voilà comment, si vous voulez, né français, je me suis retrouvé au fil du temps véritablement français. Comment, tout d'un coup, la France a fait partie de mon identité.
Vous avez eu l'expression « la France m'est devenue chère ». J'imagine que c'était pour dire que vous lui attachiez du prix.
Oui.
On a l'impression, en vous écoutant et en invoquant Simone Veil, qu'elle est aussi devenue chère au sens incarné.
Oui, effectivement. Et j'ai découvert dans les années 80 la pensée de Charles Péguy, qui a été très importante pour moi. Et effectivement, c'est lui qui parle admirablement du prix d'une patrie charnelle. Justement, d'ailleurs, quand il a pensé que la France était elle-même en danger, exposée à la menace du pangermanisme. Donc oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, oui, j'ai pris conscience du prix du patrie charnelle, et ce nom propre a fait irruption dans ma vie, occupée jusqu'alors exclusivement par des noms communs, par des concepts politiques.
Est-ce que vous pensez que ce parcours qui est le vôtre représente aussi celui de l'ensemble de la société, finalement c'est, à travers votre histoire, c'est un petit peu l'histoire des idées en France après-guerre qui se déroule. J'aimerais bien le penser, en tout cas.
Ben, je n'en sais rien. Disons que ce que je dis rencontre un certain écho. Des gens s'y reconnaissent. Mais il est vrai aussi que la réflexion que je mène me vaut d'être attaqué avec une très grande virulence. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une bataille. Et l'issue de cette bataille, je ne la connais pas.
Si je peux vous parler franchement, c'est ce que je vous disais au début, j'espère ne pas vous choquer. J'ai l'impression qu'un certain nombre de gens ne vous pardonnent pas. C'est d'être, comme je le disais, dans la gratitude et pas dans le ressentiment. Est-ce que ce n'est pas une façon pour eux de vouloir vous assigner à résidence dans l'idée qu'ils se font de ce que doit être un enfant issu d'une famille juive polonaise et qui devient français ? Est-ce qu'une minorité, aujourd'hui, pour être acceptée par ces gens-là, quelqu'un qui est issu d'une minorité ou qui vient de l'étranger, ça fait sa meilleure façon d'être intégré, finalement, et d'être valorisé, c'est d'être dans le ressentiment,
non ? Je ne dirais pas forcément qu'il y a une... Enfin, vous avez sans doute raison à un niveau ontologique. Hein. L'homme moderne, c'est Hannah Arendt qui l'a montré, est l'homme du ressentiment contre tout ce qui lui a été donné. Et elle-même plaidait pour une conversion à la gratitude. Mais en l'occurrence, notre époque aussi est hantée par la mémoire des années 30. Et elle résonne beaucoup par analogie. Les Juifs, en France, n'ont pas été très bien protégés dans cette époque. L'antisémitisme avait pignon sur rue. De Barrès... à Maurras, et puis l'antisémitisme est devenu officiel avec le régime de Vichy, l'État français, et ce régime a collaboré, on le sait, à la solution finale. Et beaucoup de gens, parmi justement le paradoxe mes adversaires, disent « on ne m'y reprendra plus ». Et ils croient, c'est ça l'analogie, que l'islamophobie est le nouveau visage de la haine. Dans l'emploi qui était celui du juif autrefois, il y a, selon eux, le musulman. Et ce qu'ils ne me pardonnent pas, c'est précisément de, selon eux, d'entretenir cette hostilité, de participer à ce climat islamophobe, donc de trahir ma judéité, d'être passé de l'autre côté de la barricade. Et ils disent, voilà, nous revivons les années 30, mais le Maurras d'aujourd'hui, c'est Finkielkraut. Et il ravive les thèmes traditionnalistes, les thèmes xénophobes dont les Juifs, autrefois, ont fait les frais, mais lui-même ressuscite tout ça contre les musulmans. Voilà. Il m'accuse, si vous voulez, de trahison. Simplement, c'est faire bon marché cette analogie d'une réalité qui pourtant crève les yeux, c'est-à-dire le développement d'un antisémitisme très virulent dans, justement, ce que Bensoussan, j'en parlais tout à l'heure, appelle les territoires perdus de la République. C'est un sociologue algérien, Smaïn Lahcher, qui disait que, dans un nombre important de foyers arabes, cet antisémitisme était comme l'air qu'on respire. Alors, bien sûr, il faut se garder de toute généralisation, de toute pétrification. Les choses ne sont pas vouées à s'éterniser. Il serait absurde de dire que les musulmans, en général, sont antisémites aujourd'hui en France, mais l'analogie entre l'islamophobie d'aujourd'hui et l'antisémitisme d'hier conduit à faire l'impasse sur cette nouvelle réalité. Je la conteste, cette analogie. J'essaye de dire la vérité. Je dis le roi est nu, et cela me vaut des redoublements de haine.
Vous pensez pas que les attaques dont vous êtes bien évidemment l'objet ont des causes beaucoup plus profondes que cet élément-là précisément? Vous avez parlé de retour au réel. Est-ce que finalement c'est pas sur l'ensemble des sujets qu'on vous reproche de revenir au réel? Parce que le réel, c'est embêtant, c'est contraignant, non?
Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Et si vous voulez, je ne sais pas si j'y reviens. Je sais que je recherche la vérité, et cette réalité, justement, ne donnant aucun signe de vouloir revenir au bercail que l'antifascisme a prévu pour elle, je pense que le jeu de massacre va continuer.
Parce que il est patent, quand on vous lit, que vous mettez le doigt sur tout un tas de phénomènes qui sont évidents. L'égalité qui se transforme en indifférenciation, l'instinct démocratique qui finit en massification, tout cela, on ne peut que le constater. Donc ça s'impose justement avec la vigueur du réel. Et on sait ô combien, avec quelle violence et souvent quelle vulgarité. Ne serait-il pas temps également de nous donner quelques raisons d'espérer? Ce que je veux dire, c'est qu'on sent en creux, et jusque dans le timbre de votre voix et la souffrance qui peut être la vôtre face à ce spectacle, combien est vif votre amour de la France, de la culture française, de l'harmonie, de la stabilité et de la construction que ça peut être, même pour un individu qui devient du coup se surélève au-dessus de lui-même, n'est-il pas temps aussi de nous montrer davantage cette face lumineuse? Est-ce que pour combattre ce mal, plutôt que de, comme vous le faites avec talent, porter toujours la plume là où ça fait mal, il ne faut pas offrir ce contrepoint, peut-être cet aimant formidable?
Ça, je ne sais pas très bien quoi vous dire. Alain Juppé a écrit un texte il y a quelques années intitulé « L'identité heureuse » pour répondre à mon livre « L'identité malheureuse ». Et il disait « Je suis un homme politique ». Je dois me fixer des objectifs, je ne peux pas me complaire dans la mélancolie, dans un diagnostic noir. Bon, moi je veux bien, simplement un objectif
si
ne peut pas être...
Si vous aviez d'autres conseils de lecture à nous donner, ça nous arrangerait quand même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un objectif ne doit pas être un vœu pieux, et ce sont les hommes politiques qui sont condamnés à l'optimisme. Parce que, voilà, ils sont là, ils vous disent, ils vous font des promesses, ils ont des slogans éclatants et ils sont les mandataires d'un avenir qui ne sera peut-être pas radieux, mais qui, nous disent-ils, sera meilleur. Je pense, moi, que l'avenir aujourd'hui a plutôt le visage de la menace que le visage de la promesse. Et n'étant pas un homme politique, je m'accorde le droit de le dire. Mais ce qui est possible, c'est une prise de conscience. Ça, oui, je crois. C'est-à-dire, je parle souvent de l'école. Son état est de plus en plus déplorable. Un sursaut est possible. C'est le terme que j'utiliserai. Le réveil ou le sursaut, plutôt que l'espérance ou la promesse. Un sursaut est possible. Et je crois d'ailleurs que si un homme politique, plutôt que de se fixer l'horizon de l'identité heureuse, disait ce qu'il en est aujourd'hui de l'école, eh bien, il serait écouté. Il serait écouté. Il pourrait sortir de la démagogie effarante du 85% d'une classe d'âge, etc. Mais les hommes politiques n'osent pas le dire, même quand ils en ont conscience, parce que ils ont une peur, c'est de mettre les lycéens et les étudiants dans la rue. Ils sont terrorisés par une jeunesse à la fois radicale et totalement irrationnelle. Et dès lors, ils sont souvent d'ailleurs obligés de ce fait d'annuler, de supprimer un certain nombre de réformes, de mesures qu'ils veulent prendre. Et je crois que c'est ce qui les retient, même quand ils sont lucides, de dire la vérité et d'engager les initiatives qui s'imposeraient. Mais voilà, voilà pourquoi j'ai du mal à répondre, à abonder dans votre sens, parce que d'un côté, je vous dis que la lucidité peut être payante, les gens n'en peuvent plus de ce tissu de légende qu'on veut interposer aujourd'hui entre la réalité et nous, mais ceux qui déchirent le rideau sont très peu nombreux et peuvent être vite découragés de le faire, ne fût-ce précisément que parce que, dans ce régime démocratique tel que Platon l'avait décrit, eh bien, la jeunesse règne en maître.
La question que je vous posais, les conseils, vous êtes maintenant académicien, je pourrais vous dire, cher maître, comment s'abstraire fût-ce personnellement de cette mentalité moderne et de ce poison, comme des remèdes de cet ordre-là, des conseils de lecture, une attitude devant la vie, que sais-je, au-delà des une remèdes collectifs
une attitude devant la vie, ça, je ne saurais pas quoi dire. Il y a une tendance, une propension de la philosophie aujourd'hui qui consiste à revenir à la philosophie au sens des anciens, c'est-à-dire non pas seulement la philosophie comme théorie, mais selon la formule de Pierre Hadot, la philosophie comme exercice spirituel, comme art de vivre. Aujourd'hui, ce retour me paraît parodique. Ça transformerait les philosophes en coach.
Oui, on arrive au développement personnel.
Voilà, on arrive très vite au développement personnel. Voilà, donc ce n'est pas une voie que je m'y risquerais à emprunter. Mais des conseils de lecture, oui, ou la lecture comme conseil, ça, bien sûr. La lecture, comme moyen, je reprends un titre d'un de mes livres, mais ce titre n'est pas de moi, donc je le fais sans arrogance, moyen d'avoir un cœur intelligent. Hein, c'était la prière que le roi Salomon adressait à Dieu. Il voulait que celui-ci lui donne un cœur intelligent. Cette prière, nul Dieu ne semble prêt aujourd'hui à nous l'exaucer, parce que Dieu est caché. Nous vivons sous le régime du Deus absconditus. Dieu est caché, mais la littérature peut éventuellement y répondre. Et en effet, nous avons tout intérêt, justement, pour nous dégager de ce présent qui nous obsède, mais aussi qui nous enferme, à lire et acquérir par la lecture des philosophes, mais aussi des romanciers, la sagesse pratique qui, sans eux, nous manquerait cruellement.
Monsieur Finkielkraut, la lecture comme conseil, je pense que ça fait une excellente conclusion à notre émission et j'espère que nous aurons la chance de vous avoir à nouveau dans notre studio pour
avec grand plaisir
évoquer vos lectures et vos futurs ouvrages. Oui, merci
si
beaucoup.
Merci beaucoup. Thank you.